5 juin est une date à retenir. C'est ce jour-là, en 1723, que naît Adam Smith, le père de l'économie politique. Et c'est aussi un 5 juin, toujours en Grande-Bretagne, mais 160 ans plus tard, en 1883, que vient au monde l'homme qui va révolutionner la pensée économique classique, John Maynard Keynes. L'auteur de la théorie générale place la monnaie au centre de sa réflexion et imagine une refonte des systèmes économiques autour de l'emploi, de la production et du crédit. C'est à ce dandy épicurien et boursicoteur à 16h que nous consacrons notre nouvelle série. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Keynes et sa théorie de la monnaie peuvent-ils nous aider à sortir de la crise que nous traversons aujourd'hui? C'est la question que nous allons examiner dans ce premier épisode en compagnie d'Edwin Le Héron, professeur des universités en sciences économiques à Sciences Po Bordeaux, en duplex de France Bleu Gironde. À 14h50, le journal de l'écho vous sera présenté par Xavier Martinet.
I would rather think of him as someone with...
Je décrirais Keynes comme un homme qui avait une grande intuition, des éclairs de génie.
The way Galileo suddenly realized that all
À la façon dont Galilée a compris tout d'un coup que les planètes tournaient, de même que la Terre.
And that if you accepted that, then you could begin to understand many things. Keynes had
Si on admet cela, on peut comprendre bien des choses. Keynes avait saisi que les économies capitalistes modernes, considérées au niveau le plus global, ne pouvaient pas s'équilibrer rapidement, ne pouvaient pas trouver rapidement un point de stabilité confortable. Il a eu assez d'audace pour admettre cet état de fait et il a essayé de comprendre quelles en étaient les raisons.
Bonjour Edwin Le Héron.
Bonjour à tous, merci de nous recevoir.
Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec Robert Solo, prix Nobel d'économie, que nous ouvrons cette émission. Keynes, c'est à la fois le Galilée de l'économie, selon Robert Solo, et c'est aussi l'ami des poètes et artistes d'avant-garde, le dandy qui fréquentait Virginia Woolf et le groupe de Bloomsbury. Son œuvre est passionnante, on va le voir, mais sa vie l'est également, Edwin Le Héron.
Oui, tout à fait. Il vivait même au sein du Bloomsbury Group tous ensemble, après une dizaine de grands intellectuels. Et effectivement, ils avaient une vie assez dissolue, assez variée. Et Keynes a beaucoup plus consacré d'énergie à l'art en général qu'à l'économie.
Alors, on va voir effectivement que quand même, il a consacré un peu d'énergie à l'économie. Il est né à Cambridge en 1883, l'année de la mort de Marx, d'un père lui-même économiste et d'une mère femme politique, pionnière des réformes sociales. Et il va commencer par étudier les mathématiques avant d'en venir à l'économie.
Oui, il n'avait pas envie de reproduire le modèle du père, qui était donc professeur à Cambridge en économie, et donc il s'est intéressé à ce qu'on appelle la morale, c'est en fait la philosophie. Et puis, il a fait une thèse en statistique, mais c'est une thèse qui en fait touche des questions philosophiques, du choix de la personne, et donc très philosophique. C'est Marshall qui l'a ensuite fait revenir à l'économie à Cambridge.
Alors justement, Alfred Marshall, il faut peut-être en dire un mot, c'est un économiste néoclassique qui effectivement va avoir une grande influence sur Keynes, Edwin Le Héron.
Oui, extrêmement importante. D'une part, parce que c'est lui qui finalement le convainc de revenir à Cambridge et de faire de l'économie. Il lui donne la direction du plus grand journal, l'Economic Journal, du plus grande revue de l'époque. Et Keynes prend la direction, il a à peine 28 ans. Et c'est ce qui va finalement faire qu'il va abandonner une carrière où il avait réussi le concours de pour devenir haut fonctionnaire. Il était responsable des colonies et des Indes pour finalement commencer une carrière académique, même s'il continuera toujours à mener de front plusieurs carrières. Donc Marshall est très important, c'est son père spirituel. Marshall d'ailleurs écrasait Neville Keynes vraiment en termes, je dirais, de pensée. C'était le plus grand penseur pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et il est néoclassique, mais il fait aussi une synthèse avec les travaux de Ricardo. Donc c'est en ça que Keynes parle de classique allant de Ricardo à Pigou, passant par Marshall et les marginalistes, un peu cette synthèse qu'avait essayé de faire Marshall.
Et c'est notamment sur la monnaie que Keynes va être particulièrement influent par Alfred Marshall. Keynes va s'intéresser à la monnaie qui était jusque-là délaissée par les économistes classiques.
Oui, alors j'ai tendance à dire qu'il y a eu peut-être un Dr. Jekyll and Mr. Hyde chez les deux élèves de Marshall. Il y avait le bon élève, Pigou, qui a été finalement celui qui a repris la chaire à Cambridge et qui était vraiment le penseur néoclassique par excellence, celui Katakra Keynes. Et puis, il y avait un Marshall qui avait aussi un autre disciple, Keynes. Et Keynes disait toujours, il y a le Marshall de l'écrit, néoclassique, mais il y a un Marshall de l'oral qui dit des choses beaucoup plus hétérodoxes et des choses très intéressantes, notamment sur la monnaie. Et Keynes n'aura de cesse que de pousser Marshall à publier un ouvrage sur la monnaie, qu'il fera en 1924, l'année de sa mort. Et Keynes sera déçu finalement de cet ouvrage. Et je pense que l'idée de Keynes, c'est un jour de publier l'ouvrage sur la monnaie que Marshall avait sans doute quelque part en tête, mais qui n'a pas été tout à fait capable d'écrire parce qu'il n'a pas réussi à couper le cordon ombilical. Keynes a écrit dans la préface de la théorie générale, le plus dur n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Et c'est un peu ce qui sera le cas de Keynes. Il faudra qu'il échappe à l'influence de Marshall pour enfin donner toute sa mesure avec la théorie générale.
Et c'est avec son traité sur la monnaie, publié en 1930, avant la théorie générale donc, que Keynes rompt en quelque sorte avec l'école classique à laquelle il avait peut-être adhéré dans un premier temps.
Alors, effectivement, comme vous l'avez dit préalablement, les classiques ont éliminé dès 1776, et on pourrait même remonter à Turgot en France à 1769, la monnaie de l'analyse économique. C'est-à-dire, la monnaie était devenue quelque chose, Stuart Mill disait, la chose la plus insignifiante qu'il y ait en économie. Jean-Baptiste Say disait l'huile dans les rouages, ou un voile posé sur l'essence des choses. Mais globalement, la monnaie était totalement exclue de l'analyse des classiques et des néoclassiques. Et Keynes n'aura de cesse que de remettre la monnaie au cœur. Alors, déjà avec le Tract on Monetary Reform en 24, puis avec le Treatise. Le Treatise, il considère très vite, il a à peine publié que c'est un échec, il se remet à l'ouvrage et on peut dire que c'est vers 1932 qu'il a cette intuition de l'économie monétaire de production et qui enfin arrive à synthétiser dans la théorie générale des idées monétaires réellement révolutionnaires.
Alors effectivement, depuis Adam Smith, les économistes classiques stipulent une séparation radicale entre l'économie réelle et la monnaie, alors que ce que va dire Keynes, au contraire, c'est que c'est la monnaie qui dirige l'économie, et cela par le biais du crédit. Expliquez-nous cela, Edwin Le Héron.
Oui, alors on peut d'ailleurs citer pour l'anecdote le titre de son cours en 1934, qui prouve qu'en 34 il est déjà convaincu de la chose. Il l'appelle économie monétaire de production et il dit je vais m'opposer à la pensée classique qui est une économie d'échange réel. C'est-à-dire, tous les classiques depuis Adam Smith ont dit la nation est définie par le marché, l'économie analyse le marché et ce marché doit être analysé par une théorie de la valeur, valeur travail chez les classiques ou valeur utilité marginale chez les néoclassiques, mais voilà, on fait une théorie de la valeur. Si on est un vrai économiste, on a une théorie de la valeur pour comprendre le marché. Et Keynes dit non, avant de comprendre le marché, il faut d'abord comprendre la production. La production se situe au niveau des entrepreneurs, de la demande effective, qui à la fois ont une courbe d'offre, mais aussi anticipent la courbe de demande. Donc ils font à la fois l'offre et la demande. Et cette production, faite par les entrepreneurs, est faite en termes monétaires. Ils payent des salaires en monnaie, la monnaie est la base des contrats monétaires, ils s'endettent en monnaie, et donc c'est bien une économie monétaire de production qu'il faut faire et non une économie d'échange réel. Et c'est en gros vers 1932, si on lit ses brouillons, qui après donc la publication du Treatise, qu'il a cette intuition et qui globalement, moi une chose qui m'a beaucoup intéressé chez lui, c'est que il a des intuitions géniales, comme le dit votre préfacier
Robert Solow.
En gros, si on lit les travaux de Keynes en 1905, il a déjà trois grandes idées qu'il ne quittera jamais et qu'il va essayer sans arrêt de mettre en musique. Mais il n'y arrive pas parce qu'il est victime un peu du système de Marshall dans lequel il tombe et il n'arrive pas, bien sûr, c'est un système tellement puissant intellectuellement qu'il n'arrive pas à faire la synthèse. Et il n'y arrivera qu'en 1936, après plus de 30 ans de recherche. Et ces trois idées, on peut rapidement les résumer, c'est un, il a une démarche holiste. Le tout n'est pas la somme des parties, donc il est contre l'individualisme méthodologique. Deux, il voit que le monde est en totale incertitude. Il dit, quand on décide, on ne connaît pas les conséquences à long terme de nos actes, et ça change le monde, nos décisions. Donc on est dans un monde sans arrêt dynamique qui change par nos décisions. Donc la rationalité purement individuelle en information parfaite n'a aucun sens. C'est l'incertitude qui compte. Et troisième idée forte, c'est qu'on ne doit jamais sacrifier le présent au futur. Il dira toujours, on peut bien vivre aujourd'hui pour mieux vivre demain, et donc il est contre ce complexe un peu judéo-chrétien de l'abstinence. Et on retrouvera ça dans la théologie générale, avec effectivement une approche macro, deux, l'incertitude radicalement effective, et trois, la consommation plutôt que l'épargne, c'est-à-dire le présent plutôt que le futur.
Le présent plutôt que le futur, ça là, lui sera largement reproché, on va en reparler, mais je vous propose d'abord d'entendre justement la voix de Keynes dans une archive de 1933.
Il semble y avoir une providence qui veille sur ce pays. Il y a 2 mois, nous étions dans une situation impossible. Depuis des années, notre industrie avait été étouffée par un taux de change trop élevé, avec pour corollaire inévitable que le prix de nos marchandises était également trop élevé pour les marchés étrangers. Dans les 10 années passées, j'ai trop souvent dû prophétiser le malheur, mais aujourd'hui, ce poids ne pèse plus sur nous, la tension s'est relâchée, il n'y a pas de risque d'effondrement du change ni d'une hausse sérieuse du coût de la vie. Le pire à craindre serait de retrouver le niveau de prix d'il y a 2 ans. Mais d'ici là, le commerce britannique aura reçu une impulsion considérable, bien plus importante que nous ne pouvons l'imaginer. C'est une grande joie pour nos hommes d'affaires, nos entrepreneurs et nos chômeurs de retrouver la voie de l'espoir. Mais ils ne doivent laisser personne les enfermer de nouveau dans la cage dorée où ils se sont échinés pendant toutes ces années.
John Maynard Keynes dans une archive de 1933. La cage dorée dont parle ici Keynes, c'est l'étalon or. Edwin Le Héron, expliquez-nous ce qu'il reproche à cette indexation de la livre sterling sur l'or.
Oui, alors effectivement, comme les classiques avaient une peur, je dirais, de la monnaie, eh bien, ils voulaient l'accrocher à une marchandise, l'ancrer à une marchandise, donc à une vraie valeur, et en ce sens, la monnaie serait stable. Et cette vraie valeur qui avait été choisie était l'or. Sauf que les découvertes d'or au 19e correspondaient globalement à la croissance économique du 19e, près 2% par an, mais on n'a plus du tout ça après la guerre de 14-18, où on a dû créer énormément de monnaie pour financer les guerres, et où le stock d'or n'a pas suivi. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit vous dévaluez la valeur de la monnaie, vous abandonnez la convertibilité initiale, et c'est ce que vont faire beaucoup de pays. Et puis l'Angleterre s'obstine à vouloir revenir à la parité de 1914, et donc à revenir à une valeur totalement surévaluée. Et comme dit Keynes, ils vont sacrifier quasiment toutes les richesses pour essayer de revenir à cette valeur. Et donc une sorte de fétichisme de la liquidité, une fétichisme de l'or. Alors Keynes utilise souvent l'image de Midas, hein, et je trouve qu'elle est assez bonne. C'est que voilà, Midas, on lui demande ce qu'il a de son meilleur rêve, son vœu, et il dit que tout ce que je touche devienne de l'or. Et donc
on peut pas manger de l'or
parce que on lui attribue, voilà, et il meurt de faim et de soif parce qu'on lui attribue de l'or. Et c'est ce qu'il reproche exactement à la cage dorée, cette relique barbare aussi dont il appelle l'or, et qui est le piège de Churchill.
Oui, parce qu'effectivement, pour restaurer la compétitivité de la houille, qui est largement impactée, Churchill baisse le salaire des mineurs, il provoque le 4 mai 1926 une grève générale d'une ampleur jamais vue. Comment comprendre cette obstination, Edwin Le Héron, alors qu'aujourd'hui, cet épisode britannique est peut-être considéré comme l'une des pires erreurs économiques du XXe siècle?
Alors déjà, je pense que Churchill était un très grand homme, mais certainement pas un grand économiste, hein, en tout cas nettement moins bon que Keynes. Il est un grand homme parce qu'il finira par l'admettre. Il finira par admettre que Keynes avait raison. Alors ça, seulement dans les années 30, et on abandonnera cette convertibilité au début des années 30, et il prendra Keynes comme conseiller pour la Seconde Guerre mondiale, en lui mettant même une chambre à disposition au niveau du Premier ministre pour qu'il puisse aider. Et il le nommera aussi, bien sûr, on le sait, conseiller pour la réforme à Bretton Woods. Et donc, au bout du compte, Churchill avouera qu'il s'est trompé, reconnaîtra qu'il s'est trompé, mais on était dans cette obstination totale de l'ancrage à la marchandise, mais qu'avait théorisé Ricardo, qu'avait théorisé la Banque centrale d'Angleterre avec le currency principle. Donc, ça faisait longtemps qu'en Angleterre, cette tradition existait.
Et alors, selon Keynes, la monnaie crée de la richesse, mais à condition que les agents économiques privilégient le crédit à l'épargne. Ça, c'est important pour distinguer la vision de Keynes de celle des classiques, Edwin Le Héron.
Oui, alors on peut le voir par différentes formes. Déjà, ce qui a amené Keynes beaucoup à la monnaie, c'est l'idée de l'incertitude. Hein. C'est-à-dire que quand il y a de l'incertitude, comment peut-on se protéger? Quelle est une des solutions? Bah, c'est la monnaie. Hein. Les financiers le savent. Quand on ne sait pas l'évolution du prix des actifs, eh bien, on vend le prix des actifs et on revient liquide en monnaie. Et donc, Keynes part déjà sur cette idée que la monnaie est la liquidité par excellence et donc un moyen de se protéger contre l'incertitude. Mais ce que Keynes va très vite comprendre, c'est que la monnaie a une double dimension. Une dimension flux, une dimension stock. Bon, il montre que la monnaie est un bien public qui permet de financer l'économie, qui permet de mesurer les richesses globales. Et ça, Keynes voit que c'est extrêmement utile. Mais il voit aussi que la monnaie peut être un bien privé, accaparé par des personnes, des rentiers, voilà, des thésaurisateurs. Mmh. Et là, c'est un problème parce que la monnaie devient un stock, elle ne circule plus. Et ça, pour lui, c'est une pathologie. Et il reprend les travaux de Freud pour montrer cette pathologie. Et donc, il n'aura de cesse de dire qu'on ne doit pas prendre la monnaie comme un stock, ce que fait Churchill en laissant de l'encran à l'or, mais comme un flux, c'est-à-dire comme une anticipation de richesses futures. Pour Keynes, la monnaie, c'est une anticipation de la richesse future. Quand on finance l'économie, on finance une production de richesse. Et si la monnaie, d'ailleurs, ne finance pas une vraie richesse, on a des problèmes. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Mais en tout cas, elle doit être vue avant tout comme un flux et pas comme un stock. Ça, c'est un des messages très importants qu'il nous donne.
Alors, sur l'épargne, écoutez ce qu'écrit Keynes dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, publiée en 1936. Un acte d'épargne individuelle signifie, pour ainsi dire, une décision de ne pas dîner aujourd'hui. Mais il n'implique pas nécessairement une décision de commander un dîner ou une paire de chaussures une semaine ou une année plus tard, ou de consommer un article déterminé à une date déterminée. Il produit donc un effet déprimant sur l'industrie intéressée à la préparation du dîner d'aujourd'hui, sans stimuler aucune des industries qui travaillent en vue d'un acte futur de consommation. Si l'épargne ne consistait pas seulement à s'abstenir d'une consommation présente, mais encore et simultanément à passer une commande en vue d'une consommation future, le résultat pourrait être tout différent. Car l'espoir de tirer un certain revenu de l'investissement serait alors accru et les ressources libérées de la préparation d'une consommation présente pourraient être affectées à la préparation de la consommation future. Les ressources ainsi libérées ne seraient pourtant pas toutes, même dans ce cas, nécessairement réemployées, car l'intervalle à la fin duquel on souhaiterait ajourner la consommation pourrait exiger une méthode de production d'une longueur si incommode que son efficacité marginale serait très inférieure au taux de l'intérêt courant. Alors l'effet favorable à l'emploi produit par une commande en vue de la consommation future ne se manifesterait pas sur le champ, mais à une date ultérieure et l'effet immédiat serait encore défavorable à l'emploi. Edwin Le Héron, que nous apprend ce texte de Keynes? Qu'est-ce qu'il nous dit des risques de l'épargne?
Alors, il nous dit des choses finalement assez simples. Il nous dit déjà, alors c'est pas directement dans la citation, mais c'est sous-entendu, que le salaire n'est pas qu'un coût de production, mais est aussi un revenu. C'est ce qu'il avait reproché à Churchill. Donc, quand vous baissez les salaires, vous baissez la demande, vous baissez les revenus, donc la demande. Et donc, finalement, ce que nous dit Keynes, l'incitation à produire. Parce que chez Keynes, on retrouve d'ailleurs le principe de la demande effective. C'est quoi la demande effective? Il nous dit que le niveau de production n'est pas la conjonction d'une courbe d'offres et d'une courbe de demande, donc de demande des consommateurs et d'offres des producteurs, mais d'une courbe d'offres des producteurs et de demande de la demande faite anticipée par les entrepreneurs de la consommation des ménages. Donc c'est pas les ménages eux-mêmes que les entrepreneurs connaissent, mais la demande dont ils anticipent être. Et donc si vous baissez les salaires, vous baissez la demande, les entrepreneurs vont anticiper que cette demande va baisser, ils vont produire moins. Donc Keynes nous montre, et c'est un peu le concept d'anticipation autoréalisatrice, que quand vous pensez la crise, vous arrêtez d'embaucher, vous arrêtez de distribuer des salaires, eh bien vous créez la crise. Et donc l'épargne est typiquement ça. Keynes nous dit, si vous épargnez, vous arrêtez de consommer. Pourquoi voulez-vous qu'un entrepreneur se mette à investir, se mette à produire plus, si au même moment vous arrêtez de consommer et de demander? C'est un signal qui le pousse au contraire à arrêter d'investir. Donc il nous dit, le concept le plus idiot que j'ai rencontré en macroéconomie, c'est le concept d'épargne préalable, ex ante, financier. Donc il attaque cette théorie des fonds prêtables néoclassiques qui nous disait on ne peut investir que si on a une épargne préalable. C'est l'épargne qui fait l'investissement. Donc c'est le rentier qui est au cœur du modèle et au cœur de l'économie puisque c'est le rentier qui permet l'investissement. Keynes nous dit pas du tout. Au contraire, c'est l'entrepreneur qui est au cœur du modèle par ses anticipations et il a donc besoin d'être optimiste et de voir qu'il y a une demande et donc c'est pas l'épargne qui va aller dans le bon sens. Et si on consomme aujourd'hui, eh bien on distribuera plus de revenus, donc il y aura plus d'épargne. Mais l'épargne sera ex post, un concept qui arrivera a posteriori. Et donc, il dit pas du tout qu'il faut être contre l'épargne, mais qu'il ne faut pas s'y occuper au départ. Donc c'est l'euthanasie du rentier. L'euthanasie vivra bien, mais il vivra avec une épargne ex post, mais on ne doit pas compter sur lui. Donc il est très clairement du côté de l'entrepreneur, du côté du preneur de risque, de ceux qui ont des animal spirits, et pas du côté de la money stock, du rentier, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça son message.
C'est ça son message. Et alors, dans son système économique, Edwin Le Héron, quelle est la place des banques commerciales pour lui? Elles ne jouent pas un rôle d'intermédiaire entre ceux qui veulent prêter de la monnaie et ceux qui veulent en emprunter. Elles créent la monnaie en réalité.
Oui, bien sûr. Ça, on le constate dans la réalité tous les jours. C'est bien les banques privées qui créent la monnaie et c'est bien les crédits qui font les dépôts. Si un banquier refuse de vous prêter de la monnaie, c'est qu'il n'a pas confiance en vous. Mais c'est pas parce qu'il va manquer quelque part de monnaie. Il peut la créer. C'est une monnaie scripturale. Elle est écrite par une simple écriture, une écriture électronique. Et il peut en écrire autant. Ça, Keynes l'avait compris. Et du coup, il va échapper à une vision trop simpliste de la monnaie qu'on continue à enseigner malheureusement aujourd'hui. On vous dit la monnaie a trois fonctions. Compter, échanger, réserve de valeur. Ça, c'était Aristote, il y a plus de 2000 ans. Keynes dit non, il y a trois fonctions bien plus importantes que celle-là. C'est que la monnaie sert à financer l'économie, c'est-à-dire que justement on échappe à la contrainte de l'épargne, alors que depuis Adam Smith, il avait dit, ben voilà, on a une contrainte nécessaire pour l'investissement, c'est l'épargne. Keynes revient à ce qu'étaient les mercantilistes, à ce qu'étaient les scolastiques, une pensée avant les classiques qui acceptaient tout à fait le financement par la monnaie. Et il met cette fonction de financement au cœur, et évidemment c'est une fonction macro. Il dit aussi la monnaie sert à spéculer. Alors ça, c'est le côté préférence pour la liquidité et le côté incertitude. C'est la cinquième fonction de la monnaie. Puis il donne une dernière et sixième fonction, c'est que la monnaie permet de réguler l'économie. C'est un instrument de politique économique qui doit être mélangé aux autres politiques, mais qui est important. Donc au lieu de trois, il y a bien six fonctions et on voit bien que la monnaie et notamment les banques privées sont essentielles. Et pour lui, la banque centrale ne doit être là que pour réguler les banques privées, mais c'est bien les banques privées qui sont au cœur par leur propre pari de la validation des paris des entreprises.
Alors avant d'en venir à la banque, aux banques centrales, Edwin Le Héron, on peut noter, souligner, rappeler que Keynes lui-même a été un boursicoteur. Il a gagné de l'argent, mais il en a aussi beaucoup perdu.
Oui, moi je crois que quand on lit la théorie générale, on retrouve beaucoup de l'expérience de Keynes. Alors ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il voit que la monnaie est une liquidité par excellence, et c'est bien ce qu'on a quand on spécule, puisque regardez en 2008, vous avez peur que tous les actifs s'effondrent, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez tous les actifs financiers pour revenir à la monnaie, parce qu'un billet de 500 euros... reste 500 euros. Et donc, lui, il stabilise la valeur au nominal. Et évidemment, comme tout le monde vend les actifs en même temps, bah, ces actifs s'effondrent. Et donc, il y a une fuite, une préférence pour la liquidité qui devient infinie. Et c'est ce qu'on connaît depuis 2008. Et ça, il le connaît avec son expérience de spéculateur. Et puis, une deuxième expérience de spéculateur qu'il a, c'est que il a beaucoup perdu. Il a beaucoup gagné. Mais il a compris que globalement, c'était un jeu à somme nulle. Parce que c'est toujours... Et ça, c'est une idée importante qu'il développe notamment dans le chapitre 12, c'est toujours la majorité qui gagne. Donc même si vous savez, entre guillemets, la vérité, moi je n'y crois pas qu'il y ait une vérité, mais imaginons que la majorité croit à une autre vérité, bah, c'est l'autre vérité qui gagnera.
Il vaut mieux avoir tort avec les autres que raison tout seul.
Exactement ce que nous dit Keynes. Et ça, il le comprend aussi de la spéculation et il verra effectivement que le mimétisme, les phénomènes moutonniers jouent beaucoup. Et donc, il en conclura qu'il ne faut pas spéculer à court terme parce que c'est toujours un jeu gagnant-perdant. Il y en a qui gagnent, mais Par définition, s'il y en a qui ont perdu, les autres ont gagné, c'est un jeu à somme nulle. Il faut en fait se baser sur la vraie valeur des entreprises, la vraie valeur du rendement du capital, et donc avoir une vision à long terme. Et donc il pousse les gens à dire arrêtons d'avoir le point de vue de Wall Street, le point de vue du court terme, ayons le point de vue de l'entrepreneur, le point de vue du long terme. Et ça, c'est un message que je trouve extrêmement d'actualité. Quand on a essayé de remettre le point de vue de Wall Street dans les années 80 au cœur du capitalisme, on a recréé les fameuses crises financières, et 2008 en est un parfait exemple.
Et c'est justement effectivement en 2008 que John Maynard Keynes va revenir sur le devant de la scène. À ce moment-là, on va parler de moments keynésiens. On parle aujourd'hui aussi de moments keynésiens. On va expliquer dans un instant si c'est tout à fait légitime.
John Maynard Keynes, he was tall and he had a lot of brains.
He was one of the giants of the dismal science, John Maynard Keynes.
John Maynard Keynes, read his books each and every time it rains. Fond of the comics, you're gonna love economics.
John Maynard Keynes par le chanteur pour enfants Jeff Tambovsky. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie d'Edwin Le Héron pour lever le voile sur les théories keynésiennes et leur influence sur les politiques publiques. Alors on l'a dit tout à l'heure, selon les classiques, la quantité de monnaie en circulation influence le niveau général des prix. Trop de monnaie en circulation et c'est l'inflation assurée, ça c'est la grande peur de Milton Friedman. Mais Keynes, lui, ne pose pas le même diagnostic sur l'inflation, Edwin Le Héron.
Ah oui, non, pas du tout. Ils sont en totale opposition. Bah, d'une part, parce que effectivement, on retrouve chez Friedman déjà cette vision que la monnaie n'est liée qu'au marché. Et comme je vous l'ai dit, Keynes renvoie la monnaie à la production. Et donc, c'est une erreur pour Keynes de faire cette confusion, puisque si, par exemple, vous créez de la monnaie en produisant des richesses, bien sûr, vous augmentez la demande, comme le dit Friedman, mais vous augmentez l'offre aussi. Normalement, on espère du même montant. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir un excès de demande. Pour qu'il y ait un excès de demande, comme chez Friedman, il faut soit dans le petit dessin animé qu'on trouve sur le site de la Banque Centrale Européenne, qui est un diable qui, au début du marché, vous donne des billets gratuits de 100 euros dans la poche. Bon, là, évidemment, si vous avez des billets de 100 euros qu'on vous donne et qu'il n'y a pas de production supplémentaire produite, il y aura de l'inflation. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens faire cela? Non. Donc l'idée de l'hélicoptère, on disait à Friedman, d'où vient la monnaie? Il avait évidemment aucune théorie, puisqu'il n'avait pas de théorie de la monnaie de production. Donc il disait, c'est un hélicoptère qui passe la nuit et qui distribue les billets. Bon, c'était une réponse très drôle et très astucieuse, mais on voit que Keynes, lui, il a une explication. Il sait que ce n'est pas un hélicoptère, et évidemment c'est plus riche. Et en gros, la théorie de l'inflation chez Keynes renvoie à des choses qu'on avait déjà chez Ricardo, qui sont les coûts de production. Eh bien, l'inflation vient quand, effectivement, les coûts de production augmente, notamment au-delà de la productivité des facteurs de production. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela.
Donc l'inflation est liée à un décalage entre la production globale et un excès d'investissement, on peut aussi le dire comme ça, Edwin Le Héron, selon Keynes.
Moi, Non, je dirais pas comme ça, parce que je ne sais pas très bien ce que peut être chez Keynes un excès d'investissement. Par définition, il nous dit l'investissement et l'épargne, c'est les deux faces d'une même médaille. Il n'y a pas chez lui de théorie d'un excès d'investissement. Il y aura de l'inflation chez lui, simplement, si par exemple vous montez les salaires de 5% et que la productivité des facteurs de production est de 2%, bon ben là, ça sera des tensions inflationnistes. Il y aura de l'inflation si vous financez des projets productifs qui s'avèrent être mauvais, c'est-à-dire dont personne ne veut sur les marchés. Il faut chez Keynes que la monnaie réussisse le fameux saut périlleux de la monnaie en valeur. Hein, c'est l'inverse de Marx de la valeur en prix. C'est-à-dire qu'il faut que la monnaie que vous ayez créée, qui est une anticipation de valeur, bien il faut que cette anticipation de valeur, le marché l'accepte, le valide. Si vous produisez des voitures et que personne ne veut des voitures, vous aurez bien les salaires qui auront été distribués, les coûts qui auront été distribués, il y aura de la demande, mais il n'y aura pas une offre que les gens voudront acheter. Ben là, il y aura un excès de demande. Mais ce n'est pas en soi. Donc, à nouveau, si la monnaie sert réellement à produire des richesses, eh bien, l'inflation viendra d'autres choses. Des coûts de production, la hausse du prix du pétrole comme en 73 ou en 75, etc. Mais pas, en tout cas, un excès d'investissement.
Et c'est ce qui explique le faible risque d'inflation auquel on fait face à l'heure actuelle. Edwin Le Héron, les salaires augmentent moins vite que la productivité.
Oui, on avait dans les années 70 quelque chose de typiquement anti-keynésien, c'était l'indexation des salaires sur les prix. Keynes disait qu'il faut stabiliser l'unité de compte, l'unité monétaire en salaire, et donc il faut que les salaires en monnaie soient stables. Et il ne faut pas en tout cas les indexer, parce qu'au contraire, vous tuez finalement, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis en tuant les talons.
Qu'est-ce que donc, ça veut dire indexer les salaires sur les prix, Edwin Le Héron?
Alors, c'est ce qu'on faisait dans les années 70. Quand l'inflation augmentait de 5%, on augmentait les salaires de 5%. Mais comme on augmentait les salaires de 5%, ça augmentait les coûts de production de 5%. Donc, les prix augmentaient aussi parce que c'est les entrepreneurs qui décident à la fois des prix une fois les salaires connus. Et comme les prix sont fixés après la détermination des salaires, eh bien, évidemment, le salaire réel ne bouge pas. Mais ça, Keynes l'avait tout à fait théorisé. On n'avait pas besoin de Friedman pour ça. Et donc, on a bien l'idée qu'aujourd'hui, les salaires n'augmentent beaucoup moins. Deux, les matières premières comme le pétrole baissent, on le voit depuis 2008, donc ça c'est très, ça fait baisser les prix. Trois, on a aussi externalisé dans des pays où les coûts de production sont plus bas, comme la Chine, l'Inde ou d'autres, et on réimporte des produits qui sont beaucoup moins coûteux, et ça évidemment, ça pèse énormément sur le niveau des prix, ça casse l'inflation et ça entraîne eh bien ce qu'on a appelé la stagnation séculaire, c'est-à-dire une stabilité des prix très longue depuis à peu près 15 ou 20 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de danger d'inflation. Toutes les tensions sur les coûts de production sont au contraire à la baisse. Le danger est plutôt, et on le voit bien au niveau des banques centrales, d'essayer de faire plutôt de l'inflation, parce qu'on est plutôt au niveau même d'un risque de baisse des prix, et la baisse des prix fait qu'on a intérêt à ne plus consommer, donc c'est dangereux.
Mais alors que la vision de Friedman était devenue dominante, la théorie de Keynes sur l'inflation est revenue en grâce à la faveur de la crise de 2008. On cherchait alors à expliquer les causes de la déflation en période de crise, Edwin Le Héron.
Bah oui, non, mais Friedman, vous pouvez le balayer en 3 secondes. Il vous dit l'inflation.
Tout le monde n'est pas d'accord avec vous.
Bon, alors je vais essayer de le faire en 8 secondes. Toute l'inflation vient d'un est monétaire, nous dit Friedman, vient d'un excès de monnaie et notamment d'un excès de monnaie banque centrale, ce qu'il appelle la base monétaire. Regardez ce qu'a fait la BCE depuis 2008. Elle a monté de 1000 milliards à 5000 milliards la quantité de son bilan et donc de la monnaie banque centrale avec ses quantitative easing. Elle a créé des montagnes de monnaie banque centrale. Qu'est-ce qu'on constate? Un, c'est que la masse monétaire en circulation n'a quasiment pas augmenté, un peu mais pas beaucoup, ce qui prouve bien que la logique de Friedman du multiplicateur ne marche pas. Et deux, est-ce qu'il y a eu de l'inflation? Non, les prix ont plutôt baissé. Et donc, si vraiment l'augmentation de la monnaie, notamment de la monnaie banque centrale, expliquait l'inflation, on aurait eu mais une explosion de l'inflation depuis 2008. On ne l'a pas. Et je rappelle d'ailleurs que Friedman n'a pas attaqué Keynes sur la théorie de Keynes. Il attaque Keynes, le modèle keynésien sur la courbe de Phillips, c'est-à-dire sur la relation inverse entre inflation et chômage. Mais ça, c'est 1958, c'est pas du tout dans la théorie de Keynes.
Alors c'est surtout.
Donc je pense qu'on a des arguments chez Keynes qui permettent de, à nouveau, de dire si on ramène la monnaie à la production, si on ramène la monnaie au coût de production, si on ramène à la monnaie une capacité de créer de la richesse, à nouveau, ce n'est pas automatique. Hein. Je suis d'accord que si au Zimbabwe vous créez de la monnaie sans production de richesse, vous aurez de l'hyperinflation, la monnaie disparaîtra. La monnaie n'est pas magique. La monnaie ne crée pas une valeur magique. Mais en tout cas, elle peut éviter, c'est ce que moi j'ai appelé la rareté désirée des orthodoxes. Chez les orthodoxes, on a cette rareté désirée qui serait que l'épargne, eh bien, s'impose comme une rareté. Et moi, je dis que cette rareté, elle est choisie, elle n'est pas dans les faits.
Alors, c'est surtout la théorie keynésienne de la relance, Edwin Le Héron, qui se trouve au cœur des débats depuis 2008. Pour Keynes, l'État doit intervenir afin de stimuler la demande. Il s'en explique dans la théorie générale. Écoutez. En ce qui concerne la propension à consommer, l'État sera conduit à exercer sur elle une action directrice par sa politique fiscale, par la détermination du taux de l'intérêt, et peut-être aussi par d'autres moyens. Quant au flux d'investissement, il est peu probable que l'influence de la politique bancaire sur le taux de l'intérêt suffise à l'amener à sa valeur optimum. Aussi pensons-nous qu'une assez large socialisation de l'investissement s'avérera le seul moyen d'assurer approximativement le plein emploi, ce qui ne veut pas dire qu'il faille exclure les compromis et les formules de toutes sortes qui permettent à l'État de coopérer avec l'initiative privée. Mais à part cela, on ne voit aucune raison évidente qui justifie un socialisme d'État embrassant la majeure partie de la vie économique de la communauté. L'État n'a pas intérêt à se charger de la propriété des moyens de production. S'il est capable de déterminer le volume global des ressources consacrées à l'augmentation de ces moyens et le taux de base de la rémunération allouée à leurs détenteurs, il aura accompli tout le nécessaire. Les mesures indispensables de socialisation peuvent d'ailleurs être appliquées d'une façon graduelle et sans bouleverser les traditions générales de la société. Edwin Le Héron, Keynes propose ici un compromis entre un État socialiste détenteur des moyens de production et un marché complètement libre capable de s'autoréguler.
Oui, c'est un très beau texte. Et effectivement, Keynes est dans ce qu'on appelle les chercheurs de la troisième voie. Il a compris en 1929 que le laisser-faire était voué à l'échec et il est un libéral, mais il dit, si on laisse faire uniquement les marchés, jamais les marchés ne s'auto-équilibrent. Il faut donc bien qu'il y ait un intervenant extérieur. Voilà. Et c'est là où il introduit effectivement l'État. Il définit l'État comme celui qui pense le tout, la globalité, ce que vous avez dit, le social, et qui le pense à long terme. Voilà les deux caractéristiques pour lui d'un homme d'État. Celui qui pense le tout à long terme. Ce qu'un entrepreneur ne peut pas faire, ni un ménage. Et donc, quand il a cette vision de la crise de 29, il a aussi visité l'Union soviétique un peu plus tôt, dans les années 20, et il a été un peu horrifié par ce qu'il a vu. Il est absolument contre une vision marxiste de la détention.
Il est devenu très anti-stalinien.
Oui, tout à fait. Et donc, il cherche une troisième voie entre une approche qui est clairement chez lui libérale, mais dans ce libéralisme, il ne croit pas au laisser-faire, c'est-à-dire au fait qu'il y a un auto-équilibre des marchés, d'où la nécessité de socialiser. C'est ça qu'il appelle. C'est quoi socialiser l'investissement? C'est que ça soit une décision sociale. Alors, c'est un peu comme aujourd'hui, si on disait sauvons la planète, Keynes dirait la planète, c'est un problème mondial, il faut un pouvoir mondial, il faut donc une vision sociale, socialiser cette solution-là. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir une solution individuelle ou croire que, finalement, le marché va être capable, par lui seul, eh bien, de résoudre ce type de problème. Donc, c'est ça ce qu'il appelle socialiser l'investissement. Et donc, c'est là où il amène l'État avec cette vision, donc, comme je l'ai dit, de celui qui pense le tout à long terme.
Et donc, l'État a pour rôle notamment de restaurer la confiance, mais en quoi consiste concrètement ce plan de relance keynésien? Il s'appuie sur la hausse de la consommation des ménages, mais pas seulement.
Non, et pas seulement, parce que, à nouveau, Keynes dit toujours, c'est l'investissement qui prime. Et donc, il préfère l'amélioration de l'efficacité marginale du capital, c'est-à-dire, en gros, de l'anticipation de rendement par les entrepreneurs de l'investissement. Mais parfois, quand les entrepreneurs sont très pessimistes, ça peut être utile d'améliorer la demande, soit par des commandes publiques, de l'investissement public, soit par de la consommation. Mais il est quand même beaucoup plus favorable à l'investissement, notamment public, et encore mieux privé que à la consommation. Ce qu'il dit, par contre, c'est que, et c'était dans cette formule, c'est que si on améliore la répartition des revenus, qu'on donne plus aux plus pauvres et moins aux plus riches, eh bien, on fera monter mécaniquement la propension à consommer, donc les débouchés, et donc, je dirais, la croissance économique. Donc, c'est une bonne chose d'avoir une meilleure répartition des revenus. Et ça, évidemment, il s'oppose aussi à la pensée orthodoxe qui voit souvent dans les inégalités pas quelque chose de socialement positif, mais en tout cas, économiquement utile, parce que c'est le moteur un peu de l'action individuelle.
Je voudrais vous faire entendre, Edwin Le Héron, l'économiste Bernard Maris, qui nous explique pourquoi, selon Keynes, l'État doit absolument intervenir.
Ce que dit Keynes au départ, c'est qu'une économie, contrairement à ce qu'on croyait, peut être en déséquilibre durable, long. C'est-à-dire que on pense, les économistes, la quasi-totalité des économistes pensent qu'une économie revient à l'équilibre assez vite. Par des lois, genre l'offre et la demande, le fait que... Bon, et Keynes pensait que c'était pas vrai. Il pensait que on peut avoir des situations catastrophiques qui font que le déséquilibre, ce qu'il appelait le chômage de masse, c'est ça un déséquilibre, ça veut dire que le marché de l'emploi ne revient pas à l'équilibre, pouvait s'installer de façon très très longue. Et à partir de là, il disait, oui, bien sûr, les économistes disent toujours que c'est comme une tempête, eh bien, la tempête s'achève un jour, c'est-à-dire que ça redevient calme, c'est ça l'équilibre, mais peut-être qu'au passage, la tempête a détruit des villes, a détruit des hommes, a été un tsunami, etc. Donc il disait, il faut pas attendre d'être tous morts, et il faut agir. Et pour ça, il pensait que l'arme, c'était l'argent. Il pensait qu'il fallait agir en donnant du pouvoir d'achat. Alors, il ne pensait pas que la croissance se décrétait, mais il pensait qu'il comparait l'économie un petit peu à un système psychologique. Il parlait de dépression générale. Le terme dépression, d'ailleurs, vient de la psychologie. Et il pensait qu'un moyen de redonner confiance et de refaire circuler de l'argent qui ne circulait plus... Il avait deux grands ennemis, Keynes était le rentier et le thésauriseur, enfin l'épargnant et le thésauriseur. Un moyen de refaire circuler de l'argent, c'était un petit peu de distribuer des billets par hélicoptère. Ce qui se fait un petit peu aux États-Unis en ce moment.
Voilà, Bernard Maris, invité de l'émission Le Grain à Moudre, le 20 février 2009 sur France Culture. La monnaie hélicoptère, vous l'évoquiez tout à l'heure, Edwin Le Héron, c'est l'expression qui avait été employée pour la première fois par Milton Friedman, mais c'est une solution qui a été privilégiée par les États-Unis en 2008 et également aujourd'hui face à la crise du coronavirus.
Alors déjà, je partage totalement, sauf peut-être ces trois derniers mots de la citation de Bernard Maris. Effectivement, Keynes disait, en économie, c'est le seul endroit où quand les entrepreneurs sortent avec des parapluies, il se met à pleuvoir. C'est-à-dire que effectivement, on provoque la situation, et ces fameuses situations autorisatrices, et donc sortir avec un parapluie, c'est pas comme dans la vie réelle avec la météo, ça fait pleuvoir. Et donc, il disait, ce qui compte, c'est la couleur des lunettes des entrepreneurs. S'ils voient le monde avec des lunettes roses, bah, le monde sera en croissance, il sera rose. S'ils voient le monde avec des lunettes noires, eh bien le monde sera triste, ils anticiperont la crise et il y aura la crise. Et donc il faut faire changer la couleur des lunettes des entrepreneurs, et ça c'est très compliqué, c'est tout ce que vous avez dit, la confiance. Alors, bien sûr, la politique monétaire est une solution, mais Keynes est très clair là-dessus dans la théorie générale. Il dit c'est avant tout la politique budgétaire, c'est-à-dire l'investissement qui est important. La politique monétaire est pour lui une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est un peu l'exemple de l'âne. Si vous avez un âne que vous tenez par une corde, si vous poussez sur la corde, ça ne fera pas avancer l'âne. La corde va se détendre, elle va devenir molle et l'âne ne va pas bouger. Donc pour lui, pour tirer l'âne, il faut tirer sur la corde, mais en la tendant, ça c'est la politique budgétaire. Et la politique monétaire, c'est juste l'accompagner, c'est donc donner la marge de manœuvre de telle sorte qu'effectivement, on ait monétairement les moyens de financer cette relance.
Mais alors, voilà. Est-ce qu'il faut considérer donc, aujourd'hui qu'on fait face à une relance keynésienne, que ce soit du côté des États-Unis oui. ou du côté de l'Europe et de l'Iran?
Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que finalement, en 2008, qu'est-ce qu'on a fait? On avait beau dire Keynes est mort et tout, bah on a baissé les taux d'intérêt, politique monétaire, à des niveaux très bas. Et même aujourd'hui, la BCE, on est en taux négatif. Donc ça, même Keynes l'avait jamais imaginé. Et je crois qu'aucun keynésien l'avait imaginé. Et puis, on a aussi augmenté les déficits publics de manière très importante en 2008. Et puis, on le voit aussi aujourd'hui avec le Covid et les plans Covid, des plans à plus de 750 milliards en Europe, à plus de 1000 milliards aux États-Unis. Donc on refait les politiques keynésiennes. Mais évidemment, moi, il me semble qu'autant en 2008, ça pouvait avoir une réelle efficacité, autant on voit bien qu'avec la crise Covid, on est dans une autre dimension, puisque c'est pas une crise keynésienne, au sens d'insuffisance de la demande ou même de problème d'offre. Aujourd'hui, on voit bien que les restaurateurs sont prêts à offrir des repas, les gens sont prêts à aller manger dans les restaurants et on leur interdit. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une politique ou une politique keynésienne de type relance, soit par la demande, soit par l'investissement et donc par une amélioration de l'offre également, qui serait conjointe, ce que demande Keynes, elle n'est pas réellement possible dans la mesure où on interdit d'une certaine manière à l'offre et à la demande de s'exprimer pour de bonnes raisons, qui sont des raisons sanitaires. Donc je ferai une petite différence entre les relances de type crise Covid et celles de 2008. Mais Voilà, peut-être
mais
pour juste dire une dernière phrase.
Allez-y, je vous en prie, Dwayne.
Non, juste une dernière phrase, c'est en gros, si on a bien compris Keynes' souci, c'est Keynes disait, c'est pas seulement les crises qu'il faut soigner, c'est les éviter, c'est ça qu'il voulait faire Keynes, c'est le grand message de Keynes, c'est ce que dit Maryse. Et donc si on veut éviter les crises, faut aussi agir en amont. Il faut pas être orthodoxe jusqu'en 2008 puis dire ah ben maintenant qu'on a raté, on va aller voir qui a des choses à dire sur la crise, bah c'est Keynes, on va le chercher. Il faudra aller chercher pour éviter la crise de 2008, c'est ça le message de Keynes.
Aller chercher Keynes et aller vraiment le chercher, c'est-à-dire le lire, est-ce que aujourd'hui Edwin Héron, il n'est pas énormément cité, ce Keynes, sans être véritablement lu.
Oui, je crois que c'est un des... Moi, j'ai fait un article, je crois que c'était le titre, où c'est l'économiste le plus célèbre du XXe siècle et le moins connu, d'une certaine manière. C'est-à-dire que très, très peu de monde ont réellement lu ce qu'il écrivait. Et Keynes disait toujours, quand les faits changent, je change. C'est en plus une pensée complexe. Il a mis beaucoup de temps lui-même à échapper aux idées anciennes, comme il le dit. Et on en a souvent fait une caricature. Par exemple, Keynes n'est pas, pour moi, un théoricien de la nation nationaliste. Quand on lui demande de solutionner la question monétaire au niveau international, il dit bah il faut un pilote dans l'avion au niveau mondial et il veut un système monétaire mondial. Il est clair que sur une question comme l'environnement, il n'y a pas de solution nationale. On a là aussi typiquement une question où la solution ne peut être que mondiale. Donc Keynes se met à l'endroit où il y a du pouvoir et pour certaines questions, bah le pouvoir doit être mondial, pour d'autres il doit être national, pour d'autres local. Et ça c'est des choses qu'on a oubliées. On en a fait une caricature. Oui, je suis assez d'accord.
Et justement à la fin de sa vie, quel est le rôle que Keynes va jouer auprès du gouvernement britannique, puisque toute sa vie il a conseillé des gouvernants et il va se retrouver finalement à conseiller Lord Beveridge à trouver les financements du welfare state au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, il a commencé, il a compris que le pouvoir avait basculé aux États-Unis, il a tout fait pour le freiner, il a à Bretton Woods essayé de maintenir un ordre multilatéral où l'Angleterre aurait encore sa place, il a largement échoué, il a bien compris que le FMI et la Banque mondiale, c'était pas ce qu'il voulait, donc il a assez largement échoué face aux États-Unis. Sauf que les États-Unis ont finalement fait un plan Marshall qui est typiquement un plan de type keynésien, mais bon, ils l'ont fait pour d'autres raison sans doute, géopolitique et peur du communisme. Et globalement, Keynes est mort un peu trop tôt. Il est mort en 46, épuisé par Bretton Woods. Et donc, il est mort sur un échec, une fois de plus. C'est-à-dire que il a souvent prôné, comme il le disait dans le texte que vous avez cité, dans le désert, il a souvent prôné un peu, été considéré comme un peu le mauvais augure. Et à Bretton Woods, il dit, ben non, on n'a pas de pilote dans l'avion, on a mis les États-Unis, ça posera un jour un problème. Les États-Unis ont fait globalement le travail avec le plan Marshall et donc on n'a pas manqué de dollars, mais au bout du compte 73 a bien été ce problème du pilote dans l'avion et aujourd'hui avec la vision et l'opposition entre la Chine et les États-Unis, on retrouve la question de ce problème et d'ailleurs il est assez paradoxal de voir que ce sont les Chinois aujourd'hui qui ressortent le plan Keynes et qui disent ben voilà, faisons du multilatéralisme, ne soyons pas comme Trump dans le bilatéral, ayons une monnaie multilatérale, mais ça veut dire plus seulement le dollar, ça veut dire de l'euro, du yen, de la livre sterling et du yuan chinois. Et c'est là le projet actuel, par exemple, de la Chine, qui, quelque part, a à voir avec le plan Keynes.
Mais est-ce que Keynes n'a pas gagné la bataille des idées? On se souvient de Nixon en 71 qui disait « Nous sommes tous keynésiens » et aujourd'hui, la plupart des économistes reconnaissent les bienfaits de l'intervention publique et les risques de l'austérité, Edwin Le Héron.
Alors peut-être que la différence, c'est que dans les années 60, ils étaient fiers d'être keynésiens et qu'aujourd'hui, ils ont honte. Alors oui, ils le sont quelque part, mais malgré eux. Bon, j'ai lu récemment ce qu'écrivait Christine Lagarde et je trouve que c'est incroyablement keynésien. Elle dit bah, il faut arrêter la neutralité du refinancement de la Banque centrale, il faut refinancer en priorité les crédits qui permettront la transition écologique, il faut avoir une approche qualitative du crédit. Mais ça, c'est le discours de Keynes. Keynes dit c'est pas la quantité de monnaie qui compte, c'est la qualité, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et il faut, et si on en fait de bonnes choses, ce n'est pas un problème de la créer. Mais le problème, c'est la qualité. Il faut arrêter de créer de la monnaie juste parce que ça serait une sorte de chose magique. Or, c'est exactement ce que dit Christine Lagarde. Donc, je crois effectivement que les idées keynésiennes aujourd'hui peuvent revenir à l'ordre du jour parce que on voit bien que le laisser-faire ne marche pas. Mais globalement, au niveau académique, on ne voit pas encore totalement les gens totalement convaincus. Ils le font un peu malgré eux. Voilà.
Il faut dire que Keynes a souffert
par là.
Des années 70, Edwin Leroy, avant que vous terminiez, pardon, souffert de la stagflation, ce mélange de stagnation et de la croissance et d'inflation. Il y avait eu une remise en cause des idées keynésiennes à l'époque, donc dans les années 70. Est-ce que c'était justifié? On avait abusé des recettes keynésiennes à ce moment-là? Et ça justifie ce tournant néolibéral qui est survenu à l'époque?
Ben, moi, je crois que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a des poux. Mais moi, je n'ai pas trouvé les poux dans la tête de Keynes. Hein. D'une part, on lui a reproché les déficits publics. Les déficits publics ont explosé après la fin du keynésianisme. Regardez le niveau des dettes publiques de tous les pays développés en 72, en 73 et même en 74. On est à moins de 15 ou 20% du PIB. Aujourd'hui, on est tous à plus de 150% et 300% au Japon. Donc, les dettes, c'est un problème du libéralisme. On a l'inflation, mais l'inflation était liée à un problème de dollars et du coût de production, justement ce qu'avait dit Keynes, qu'on avait un problème avec le dollar. Dès qu'ils ont désindexé avec l'or et qu'on a créé trop de dollars, on a eu un problème de coût et les pays pétroliers se sont entre guillemets sauvés en montant leurs prix violemment, etc. Donc c'était bien une explication qu'avait Keynes. Donc je pense que Keynes peut expliquer ce qui s'est passé. La stagflation n'était pas expliquée par la courbe de Phillips, mais la courbe de Phillips, à nouveau, c'est Phillips, c'est 58, c'est pas Keynes, c'est pas dans la théorie générale ni ailleurs. Donc on a, par la théorie des coûts de production, de quoi expliquer largement les problèmes des années 70. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, on a tué Keynes et les libéraux ont redit, et puis des gens comme Fama, qu'on pouvait revenir à l'efficience des marchés, on a mis les marchés financiers. Voilà, et au bout du compte, qu'ont répondu les keynésiens? Si vous faites ça, on aura des crises financières. Ils ont dit, mais pas du tout, le marché va s'auto-équilibrer, la finance a une capacité à détrouver les valeurs fondamentales, on connaît où est le nez rue, on connaît la croissance potentielle, donc tout va aller bien. Eh ben non, on a depuis 20 ans des suites de crises. Donc je pense que le message keynésien est toujours d'actualité, mais il faut arrêter, un, de le caricaturer, et puis arrêter surtout d'en avoir honte. Moi, je crois que l'État, et notamment un État stratège, aujourd'hui, comme Keynes l'avait proposé, est pour moi une évidence si on est européen. Et je crois que si l'Europe se construisait là-dessus, elle serait déjà bien plus facilement admise par les peuples.
Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire toute cette semaine, Edwin Leroy. Oui, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Voilà. Non, le seul danger, c'est ne pas confondre keynésianisme et populisme. Que ce soit Boris Johnson ou que ce soit Trump, ce n'est pas du keynésianisme. Là aussi, c'est évidemment transformer pour de mauvaises raisons un message qu'on croit nationaliste. Et donc, c'est mon seul danger, c'est qu'on revienne à Keynes en croyant que c'est le populisme. Ce serait mon seul danger.
Effectivement que l'héritage de Keynes donne lieu à des courants extrêmement divers. On en parlera notamment jeudi et demain on parlera de l'emploi et donc on s'attachera à entrer dans le détail de ces théories keynésiennes qui nous intéressent et qui sont d'actualité. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup Edwin Leroy de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également aux techniciens de France Bleu Gironde qui ont assuré ce duplex. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine et bonjour à tous.
Marionnette des castrochavistes et cheval de Troie du communisme, c'est ainsi que Donald Trump avait dénoncé le programme économique de son adversaire. Joe Biden est finalement élu, mais son nouveau New Deal pourrait ne pas passer l'hiver.
Eh bien, ce programme de dépenses fédérales de 6 500 milliards de dollars sur 10 ans est ambitieux et l'inflexion est nette, effectivement. Écologique d'abord, avec un tiers des dépenses pour la transition énergétique et sociale et les deux tiers restants pour la santé, l'éducation ou le logement. Mais l'obstacle est d'abord politique, car Joe Biden pourrait se retrouver pour 4 ans avec un Sénat républicain dans une sorte de cohabitation qui hypothèque aussi bien la relance à long terme que les nouvelles mesures d'aide d'urgence pour la crise sanitaire. Si les républicains contrôlent le Sénat, elle ne serait que $1 milliard contre les 2,5 à 3 milliards prévus par Biden, calcule ainsi un analyste de Goldman Sachs. Résultat, même si la Maison-Blanche conserve une marge de manœuvre pour gouverner par décret, le programme des Bidenomics, comme le nomme la presse américaine, risque donc surtout d'être une série de compromis.
Pourtant, Joe Biden avait bien intégré certaines propositions de la gauche radicale.
Oui, intégré ou mise sous le tapis, c'est à vérifier dans les prochains mois. Le candidat avait endossé certaines revendications sociales ou écologiques de l'aile gauche des démocrates, Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. En particulier, il prend une mesure forte, le salaire minimum qui rampait à $7,25 de l'heure depuis 2009 est désormais doublé à $15 de l'heure, plus qu'en France. Mais cette aile gauche ou progressiste s'est faite volontairement discrète pendant la campagne et puis Biden a refusé le Green New Deal ou la proposition de démantèlement des GAFA qu'elle soutenait justement. Victoire de l'anti-Trump donc, mais pas de l'antitrust.
Reste la fiscalité, Xavier, c'est quand même un contre-pied par rapport à Donald Trump.
Oui, contre-pied réel. Aux 1 700 milliards de dollars de baisse d'impôts accordés par Donald Trump aux plus fortunés, Biden propose à l'inverse plus de 4 trillions de hausses sur les entreprises et les hauts revenus, soit 2 points de PIB gagnés chaque année, dont les 1% les plus riches paieraient effectivement les 2/3 de la facture, résume la BBC. Cet arsenal d'impôts sur les sociétés ou les hauts revenus permettrait, entre autres, de restaurer et étendre le fameux Medicare d'Obama, affaibli par Donald Trump. Et dans Libération, Gabriel Zucman, qui conseille Sanders et Warren, se veut optimiste. Certes, Biden n'a pas repris les propositions les plus progressistes, mais même s'il est un président de transition plutôt que de transformation, dit-il au niveau fédéral, l'effet de rupture idéologique est là, et puis les difficultés financières des États les pousseront sans doute à taxer plus fortement les hauts revenus. C'est déjà le cas dans certains, comme en Californie, État de New York et de Washington, et même l'Arizona, où le score a été serré.
Ce qui ne va pas changer, en revanche, c'est la politique commerciale.
Oui, là, c'est Build Back Better, le programme de Biden contre Make America Great Again. Rapatrier la production tout en traitant multilatéralement avec la Chine. Ce sont des positions affichées presque aux antipodes de Donald Trump, mais pas forcément un revirement politique. Même si le programme de Biden est plus policé, il a aussi déjà qualifié la Chine de voyou et son diagnostic sur les pratiques prédatrices, comme il dit, est le même que Trump, rapporte un de ses conseillers au Wall Street Journal. Il n'annulera d'ailleurs pas les taxes sanctions sur les 2/3 des importations chinoises et ne reviendra pas sur l'exclusion de Huawei. D'ailleurs, Pékin n'a pas félicité le futur président et dans le Washington Post, l'éditorialiste Jacob Schlesinger prédit « La future politique de Biden vis-à-vis de la Chine ressemblera étrangement à celle de Trump ».
Et donc finalement, Joe Biden pourrait se retrouver dans la même situation que Barack Obama ?
Et oui, avec un congrès divisé, ce sera le même laborieux travail pour son ancien vice-président que pour Obama à partir de 2010, prédit Neil Irving dans le New York Times. Et comme sous Obama, ce blocage politique donnerait mécaniquement à la Fed un rôle dominant dans la politique économique, puisque la Fed, incitée par Obama à une nouvelle politique de rachat de titres et d'injection financière pour 780 milliards de dollars à l'époque, eh bien elle pourrait prendre le relais si les fonds pour la relance sont bloqués par le congrès pour Biden. Obama avait réussi à créer plus de 12 millions d'emplois. Les 18 millions prévus par Biden coûteront encore plus cher. Le problème, c'est que la crise d'aujourd'hui est pire qu'après 2008 et le Wall Street Journal est plutôt pessimiste. Il écrit, en réécrivant l'histoire, Biden et son équipe veulent faire croire que la pire relance depuis la Grande Dépression produira aujourd'hui des miracles.
Merci beaucoup Xavier Martinet. On vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'Écho.
I've been running around, looking for me in town, hoping for something to sparkle my mind, cause I've been out of touch, lost within, bought without, I sit chain smoking, I am to the buzz. Yes, my laugh has turned fake, and my tears have turned dry, but my bluff is so fine, no one takes the time, but you were as fine, come crying.
C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Bruno Barada, Marguerite Caton, Aliette Ovin, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Laurie Vachon. Demain, alors que les chiffres du chômage viennent de tomber, qu'est-ce que Keynes peut nous apprendre sur l'emploi? On en parle à partir de 14h. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Was the floor right now, nothing feels right, and I'm glued to the floor, and everything I try I did better before, so I do and undo myself of name, I tear off the mask and I put up with the fame.
France Culture, l'esprit d'ouverture.